Il y avait probablement des chemins bien moins tortueux que ceux que je vais emprunter pour parler de Hank Williams. Mais je pense que ces détours valent le déplacement. Je remercie Julien Bitoun qui m'a permis d'utiliser en fin d'épisode en illustration sa magnifique reprise de la chanson « I'm so lonesome I could cry » accompagnée de ses fidèles Angels. Au passage, je vous recommande chaudement le hippie consacré à Hank Williams qu'ils ont commis. Vous pouvez le commander en suivant le lien dans la description. C'est un investissement, dans 10 ans, vous l'écouterez encore. Et d'ailleurs, globalement, les deux albums de titres originaux qu'ils ont faits sont juste incroyables. Vous pouvez y aller les yeux fermés et les oreilles ouvertes. D'ailleurs, on va faire un deal. Si vous achetez un de leurs disques et que ça ne vous plaît pas, je vous le rachète. Et s'ils passent en concert près de chez vous, foncez, ça vaut vraiment le détour. En attendant, bonne écoute! La musique, qui est devenue le rock'n'roll, a eu de nombreux ancêtres différents. Le cliché, qui est tenace et pas tout à fait vrai, c'est qu'il s'agit d'un mélange de blues et de musique country. Bien que cela soit loin d'être l'unique influence, il est également vrai que le country and western a eu une influence considérable sur le développement du rock'n'roll. Si on essaye de garder un équilibre, disons que le rock'n'roll s'est développé principalement à partir de disques de rhythm and blues, et il serait extrêmement injuste d'ignorer complètement le développement du boogie hillbilly, qui est la branche de la musique qui a finalement conduit à une grande partie de ce que nous considérons aujourd'hui comme le rock'n'roll et le rockabilly. Comme une évidence, le nom même, Hillbilly Boogie, indique qu'il a été fortement influencé par le boogie et le R&B, mais c'est un genre à part entière. Si vous n'en avez jamais entendu parler, le Hillbilly Boogie est un type de musique issu du Western Swing, qui s'est lui-même transformé en musique honky-tonk. Je prends conscience que cette dernière phrase ne va pas beaucoup aider. Alors, c'est une musique qui combine les instruments de la musique country, guitare, violon, pedal steel principalement, avec les rythmes du boogie, et c'était un genre très très important à la fin des années 40 et dans les années 50. Elle était moins subtile que le Western Swing, et avait pour sujets principaux l'alcool, les bagarres, le sexe et le boogie-woogie, dans cet ordre d'importance approximatif. C'était de la musique de fête pour des hommes blancs de la classe ouvrière qui voulaient se saouler, se bagarrer et trouver une fille facile.
D'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillé. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon Jovi est-il vraiment bon? Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte? Cat Stevens a-t-il un chat? Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute!
Mais comme c'est souvent le cas avec la musique, qui fait appel à des émotions aussi primaires, pensez à CDC, Little Richard, le sujet importe peu. Il peut s'en dégager une puissance bien supérieure à ce que l'on pourrait attendre du sujet. Et certaines s'élèvent au rang de grand art. Et dans les bonnes mains, une partie de la musique boogie hillbilly pourrait être aussi puissante que n'importe quelle autre musique. La folie du hillbilly boogie a commencé en 1945 avec un disque intitulé Guitar Boogie d'Arthur Smith. on peut y entendre une partie de l'influence de Django Reinhardt, que l'on a déjà vue dans le genre western swing, et qui est encore une version assez calme du Hillbilly Boogie, plus intellectuelle qu'elle ne l'est rapidement devenue. Quelques années plus tard, le genre s'est considérablement, on va dire, roulé dans le caniveau. Dad stands in the corner where the barrels are straight. I looked out the window and over the gate. The big fat rabbits are jumping in the grass. Wait till they hear my old shotgun blast. Shotgun boogie, I done saw your track. Look out, Mr. Rabbit, when I cock my hammer back. Well, over on the ridge is a scaly bark. Hickory nuts are big, you can see them in the dark. The big fat squirrels, they scratch and they fight. I'll be on that ridge before daylight with a shotgun boogie. All I need is one shot. Look out, bushy tail. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanson qui était, pour autant que l'on sache, une collaboration entre deux grands noms de la country. Hank Williams, qui est à peu près l'incarnation du musicien country des années 50, un homme qui pouvait se produire dans de nombreux sous-genres country and western, et Moon Mullican, qui est un musicien beaucoup moins polyvalent, qui ne jouait pratiquement que du boogie hillbilly, mais qui a réussi à avoir une influence considérable sur les débuts du rock'n'roll. Bon, vous avez probablement tous déjà entendu parler de Hank Williams, mais vous n'avez probablement jamais entendu parler de Moon Mullican. Pourtant, Mullican a joué un rôle très important dans le développement de la musique country et du rock. C'était un pianiste de boogie hillbilly qui jouait plus vite que n'importe qui d'autre et qui pouvait garder une main gauche lourde tout en jouant des trilles rapides comme l'éclair avec la main droite. Si vous écoutez son jeu de piano, vous pouvez notamment voir exactement d'où l'autre grand pianiste de Louisiane, Jerry Lee Lewis, tirera son style. Mullican était, comme beaucoup d'autres joueurs de hillbilly boogie, également influencé par la musique country et par le blues. On peut entendre l'influence de gens comme Bob Wills, très clairement dans sa musique, mais on peut aussi entendre des gens comme Bessie Smith et surtout Big Joe Turner dans son style. La plupart de ses premières influences étaient des chanteurs de blues, même s'ils n'avaient pas un son très très blues. C'est la reprise d'une vieille chanson blues de Memphis Minnie, mais l'interprétation de Mullican est absolument country and western. Nous sommes à nouveau en présence d'un de ces musiciens qui prenait des influences de partout et les transformait en son propre style. Et c'est quelque chose dont il faudrait parler davantage quand on parle d'influence. Il y a en gros trois choses que vous pouvez faire lorsque vous entendez quelque chose que vous aimez en dehors du genre auquel vous appartenez. La première est de l'ignorer complètement et de continuer à labourer votre propre sillon. L'autre est de changer complètement et de le copier totalement, soit pour une chanson, comme les Blancs qui enregistraient des contrefaçons de succès noirs, soit pour le reste de votre carrière. Nous verrons plus tard comment de jeunes Anglais blancs ont été tellement impressionnés par le blues qu'ils se sont donné un mal fou pour essayer de ressembler le plus possible à des Noirs américains d'âge mûr. Ainsi que des gens qui ont essayé toute leur carrière d'être quelqu'un d'autre, Jamiroquai copiant Stevie Wonder jusqu'à l'écœurement, Oasis, Saint-Jean, les Beatles et les Who, en prenant des pauses pour faire croire au génie, Indochine recopiant des rédactions d'élèves de 6e du lycée Jules Ferry pour faire des textes de chansons. Mais la troisième chose que vous pouvez faire, celle qui tente à mener à la musique la plus intéressante et au meilleur art de n'importe quel médium et de genre, c'est de prendre ce qui vous attire dans l'autre style, voir ce que vous pouvez en tirer pour travailler dans votre propre style, incorporer tout ça et avoir un style unique. Reprenez la chanson de votre inspiration, mais faites-le dans votre propre style, avec votre arrangement. Empruntez ce rythme, mais mettez-y votre propre ligne mélodique et vos propres paroles, ainsi que la plupart des artistes créatifs vraiment intéressants. Et c'est ce qu'a fait Mulligan. Vous écoutez n'importe lequel de ses disques et vous pouvez y entendre toute une série d'influences différentes, mais il ne copie jamais directement aucune d'entre elles. Les personnes de cette trempe sont les vecteurs les plus importants des nouvelles idées musicales et de la création de nouveaux genres. Et l'influence la plus importante que Mulligan a apportée à la musique country et qui, à travers lui, est devenue une influence majeure sur le rock and roll, c'est la musique Cajun. La musique Cajun est une musique faite autour du peuple Cajun en Louisiane. Il y a tout un tas de choses autour des Cajuns qui concernent la classe sociale et la race. Et franchement, je suis probablement pas la meilleure personne pour en parler. Je risque de dire des choses très enfonçantes, tout en essayant d'être bien intentionné, parce que je n'en sais tout simplement pas assez pour en parler raisonnablement. Mais la principale chose que vous devez savoir ici, c'est que les Cajuns sont ou étaient certainement à ce moment-là méprisés par les autres habitants de la Louisiane et par les autres Américains, et qu'ils ont donc leur propre culture. Ils ont leur propre cuisine, qui comprend en grande partie des choses de beaucoup d'autres cultures. Donc, c'est une espèce de métissage, une espèce de créole, une espèce de créole. Ils ont donc leur cuisine, très fortement épicée, très fortement mélangée, et ils ont aussi leur propre langue, le français cajun, plutôt que de parler anglais, comme tant d'autres personnes aux États-Unis. C'est la culture cajun et créole qui fait de la Nouvelle-Orléans et plus généralement de la Louisiane un endroit si unique et qui rend sa musique si différente de celle du reste des États-Unis. Ce n'est pas le seul facteur, bien sûr, mais c'est forcément le facteur principal. Nous avons déjà parlé un peu de la musique de la Nouvelle-Orléans et la musique Cajun joue certainement un rôle dans ce style. Mais la musique Cajun a ses propres traditions uniques que nous ne pouvons qu'évoquer brièvement ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur la musique Cajun dans son application à la musique country, par opposition à son influence sur le rock'n'roll, je vous recommande l'excellent épisode du podcast de musique country Cocaine and Rhinestone sur Doug and Rusty Kershaw. Si cela vous intéresse, je peux travailler à une adaptation en français de l'épisode. Il est tout bonnement incroyable. Mais il s'agit bien sûr d'un podcast sur le rock'n'roll et je vais donc parler de l'influence de la musique Cajun sur le rock'n'roll qui s'est surtout manifestée à travers le style Zydeco, un genre qui s'est surtout développé chez les créoles, les Noirs de Louisiane qui parlent le même français Cajun que les Blancs Cajuns. Le nom Zydeco, Z-Y-D-E-C-O, lui-même en dit long sur la culture Cajun et le créole en général. Il existe quelques explications plausibles quant aux origines du mot, mais celle que je préfère et qu'il s'agit d'une mauvaise prononciation de « les haricots ». Vous ne me croyez pas, j'ai eu moi-même des doutes, mais il semble qu'en français cajun, « les haricots ne sont pas salés » signifie de façon idiomatique « les choses sont difficiles » ou « je suis fatigué ».« Zydeco ne sont pas salés » était le titre d'une chanson enregistrée, entre autres, par le grand accordéoniste Zydeco, Clifton Chenier.
Et toi, tout que tu as collé. C'est tout que tu as de magnifique, hein? Allons des haricots, hein?
Le Zydeco est très étroitement lié à un autre genre, le fait dodo. Alors vous allez croire que je me fous de vous, mais je vous assure que tout ce que je raconte est vrai. Il s'agit d'une musique jouée principalement par les Blancs Cajuns et dont les instruments principaux sont l'accordéon et le violon. La musique fait dodo a également pour influence le western swing, comme on peut l'entendre par exemple dans Bosco Stomp de Lawrence Walker. et Moon Mullican a introduit cette musique fait dodo dans le courant dominant de la musique country. Vous pouvez l'entendre dans son tube New Jolly Blonde. Nouvelle jolie blonde qui a atteint la deuxième place du hit parade country en 1951. C'est un mélange vraiment étrange de musique fait dodo et de western swing. On retrouve le son aigu que ferait Bob Wills et l'instrumentalisation traditionnelle de la country, sans l'accordéon proéminent. Mais on a aussi une mélodie typiquement louisianaise et des paroles dans un étrange jargon, mélange de français et d'anglais cajun, avec de nombreuses mentions de plats typiquement cajun. C'est un morceau vraiment étrange. Franchement, notamment en raison de la façon dont il s'écarte parfois totalement de toute idée conventionnelle de mélodie et se met à chanter des notes qu'on dirait prises au hasard, en essayant de faire entrer autant de paroles que possible dans l'espace. Il y avait bien sûr d'autres musiciens cajuns qui jouaient de la musique country, et vice-versa. Mais si vous écoutez les disques de Mullican, vous avez vraiment l'impression d'une personne qui est aussi à l'aise dans les deux genres de musique. J'en vois deux qui baillent au fond de la classe, et je ne prends conscience que maintenant qu'il faudrait peut-être qu'on parle un peu plus de Hank Williams. Dans chaque épisode, j'essaye de partir du principe que les personnes qui écoutent peuvent n'avoir aucune connaissance de la musique ou de l'artiste dont je parle. J'essaie de faire en sorte que ces histoires soient également écoutables pour ceux qui connaissent déjà et ceux qui découvrent. Ainsi, Hank Williams était, comme vous l'avez peut-être deviné dans ce préambule, le personnage unique le plus important de la musique country, peut-être depuis toujours et certainement depuis la mort de Jimmy Rogers. Il a eu 35 succès dans le top 10 de la musique country, dont 11 ont atteint la première place du classement country. Il a écrit des dizaines et des dizaines de classiques de la musique country et gospel. I Saw the Light, I'm So Lonesome I Could Cry, Lovesick Blues, Your Cheating Heart, Cold Cold Heart, Hey Good Looking, et bien plus que je ne pourrais en citer ici sans vous épuiser. En bref, il a été le plus important auteur-compositeur vivant au cours de sa très courte carrière. Et ce fut une carrière très courte. Sa carrière d'artiste discographique a commencé en 1946, bien qu'il tournait et donnait des concerts depuis plusieurs années déjà à cette époque. Et cette carrière s'est terminée en 1952. Au cours de cette période de 6 ans, il a totalement redéfini la musique country and western. Contrairement à Moon Mullican, qui faisait son truc très très bien, mais ne faisait rien d'autre que son propre truc, Hank Williams variait énormément son style. Alors que Mullican intégrait différents genres dans son propre style, Williams réalisait des disques de référence dans toute une série de sous-genres différents, tout en restant fidèle à lui-même. Il a commencé comme tant de musiciens dans les années 40 par rendre hommage à Jimmy Rogers de Singing Brakeman, à ne pas confondre avec le musicien de blues du même nom, était l'une de ces personnes dont nous parlerions certainement si cette série remontait un peu plus loin dans le temps et était consacrée au country. Son country blues Yodel est la musique country la plus populaire de son époque et a exercé une influence considérable sur tout le monde. L'une des choses que je souhaite souligner est la façon dont les musiciens noirs et blancs collaboraient et échangeaient des idées entre eux, bien plus que la plupart de nos contemporains ne le croient. Bien que je ne veuille pas une seule seconde minimiser les quantités massives de racisme au début du XXe siècle, il n'y avait pas autant de ségrégation par genre que les auditeurs modernes le supposent. Jimmy Rogers, par exemple, est considéré comme le fondateur de la musique country, mais écoutez ceci. Oui, c'est bien Jimmy Rogers au chant, chantant son style habituel, soutenu par Louis Armstrong et Lillian Hardin Armstrong. C'est le père de la musique country qui joue avec deux des plus grands musiciens noirs de leur époque, chantant une chanson qui est bien plus proche du blues de W.C. Handy que de ce que la plupart des gens considèrent aujourd'hui comme de la musique country. Et c'est le chanteur de country le plus influent des années 30. Tous les artistes country et western de la fin des années 30 et des années 40 travaillaient en marge de ce que faisait Jimmy Rogers. Mais lorsque Hank Williams a finalement obtenu un contrat d'enregistrement, il était devenu indépendant. Son premier succès, Move It On Over, en 1947, est un exemple amusant de Boogie Hillbilly. En l'écoutant, on entend clairement des similitudes avec Rock Around the Clock, que j'avais déjà souligné dans l'épisode sur Bill Haley.
Changed the lock on our front door. My door key don't fit no more. So get it on over.
Move it on over.
Scoot it on over.
Move it on over.
Move over, skinny dog, cause the fat dog's moving in.
Mais ce n'était pas le seul style que Williams pouvait faire. Il a fait des disques de gospel, des ballades déchirantes et de la musique de danse up-tempo. Et il était bon dans tous les domaines. Il a écrit un catalogue de chansons qui sont depuis toujours reprises par tout le monde. Et il était suffisamment populaire pour que son nom ait donné à son fils et à sa petite-fille des carrières réussies dans le monde de la musique country, bien qu'aucun d'eux n'ait le même talent. Ils en ont, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est incomparable. Et comme Jimmy Rogers, l'attrait de Hank Williams dépassait les frontières raciales. Johnny Otis, dont nous avons déjà parlé, le grand chef d'orchestre Rhythm and Blues et Rock'n'Roll avait l'habitude de raconter que son bus de tournée s'était arrêté dans un relais routier quelque part au milieu des États-Unis, qu'il était descendu et avait vu Williams dans cette station essence. Otis était un fan de Williams. Il a engagé la conversation, lui a présenté Little Hester, la chanteuse de blues et de soul noir de son groupe, et il s'est avéré que Hank était un grand fan de Johnny Otis. Ils ont tous discuté et sont remontés dans le bus qui est reparti. La mère de Little Hester lui a demandé avec qui elle avait parlé. Elle a juste répondu « Oh, c'est juste un cow-boy ». Mais quand Otis a dit que c'était Hank Williams, la mère d'Hester a crié « Faites demi-tour tout de suite !» Elle était totalement fan et elle voulait désespérément le rencontrer. Fats Domino, lui aussi, était un fan de Hank Williams, tout comme de nombreux autres musiciens de Rhythm and Blues. Williams écoutait du Rhythm and Blues et les musiciens de Rhythm and Blues écoutaient Hank Williams. Ne laissez pas le chapeau de cow-boy vous tromper. Tout le monde écoutait Hank Williams, à l'exception du public pop. Et même eux écoutaient les chansons de Williams lorsque, par exemple, c'est Tony Bennett qui chantait.
I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
À l'époque dont nous parlons, sa carrière était sur le déclin. Il avait 28 ans, mais il était trop souvent à l'agonie à cause des douleurs de son dos et il buvait trop et prenait trop de pilules pour essayer d'endormir la douleur. Il était en train de divorcer de sa première femme, qui est aussi son manager, et il manque tellement de concerts, il rate tellement de concerts à cause de son alcoolisme qu'il est sur le point d'être renvoyé du Grand Ole Opry, l'émission de radio country populaire qui a contribué plus que tout à faire de lui une star. Sa vie était franchement en lambeaux à cet instant. Mais comme il était le chanteur le plus populaire de la musique country and western et qu'il continuait à faire de grands disques, et l'un des disques qu'il a fait en juin 52 était une chanson qu'il a probablement coécrite avec Moon Mullican, le titre de cette chanson, Jambalaya on the Bayou. Je dis probablement car personne n'en est sûr, mais il semble probable que Mullican l'ait coécrite. Mais qu'il n'ait pas été crédité parce qu'il était sous contrat avec un autre éditeur que Williams. Mullican a enregistré sa propre version de la chanson le même mois mais la version de Mulligan avait des paroles légèrement différentes. Écoutons d'abord la version de Mulligan, la moins réussie de deux.
Jambalaya, the crawfish pie, the filet gumbo. My Yvonne, the sweetest one on the bow. Rip my lid and love the kid and me, oh my, oh. Son of a gun, we make big fun on the bow. Goodbye, Joe, I gotta go, me, oh my, oh. Gotta go pull the P-Road down the bow. My Yvonne, the sweetest one, me, oh my, oh. Son of a gun, we make big fun on the bow.
Maintenant, écoutons un extrait de la version de Hank Williams.
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go pull the P-Road down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Comme vous pouvez le constater, les deux versions présentent de nombreuses similitudes de base, mais elles portent toutes deux l'empreinte inimitable du son de leur créateur. La version de Mulligan a un son beaucoup plus hillbilly boogie ou cajun, tandis que celle de Williams a un son beaucoup plus honky-tonk country. Mais les deux morceaux ont toujours le même attrait de base. Il s'agit d'une célébration de la culture cajun, et en particulier, une célébration de la façon dont les cajuns faisaient la fête. Leur nourriture, leur musique et leur danse. Jambalaya, crawfish pie and filet gumbo, pig guitar, feel fruit jar, we're gonna be gay-o. Et ce, à une époque où les Cajuns étaient, aux yeux du grand public, des moins que rien, si tant est qu'on les considère. Il y a un défi dans cette chanson qui n'est peut-être pas audible par les auditeurs contemporains, mais qui est bien présent. Le guitariste sur le disque de Williams est d'ailleurs le grand Chet Atkins. Comme Hank, il a été beaucoup plus influent dans la musique country que dans le rock'n'roll, bien qu'il ait toujours nié être un guitariste country, disant plutôt qu'il était un guitariste, point final. Mais il était l'un des plus grands guitaristes de tous les temps et a également produit une poignée de classiques du rock'n'roll. Mais ce que l'on peut entendre dans les deux versions de Jambalaya, c'est qu'il y avait un appétit dans la musique country pour un type de musique qui était plutôt large, plus large en tout cas que les styles auxquels s'intéressaient les grands labels. Si l'on s'en tient à l'histoire de la pop country de Nashville, on pourrait penser que la musique country est aussi fade et blanche que le son country-politain et la country FM qui domine la musique country. Mais la musique country est une musique plus étrange et plus éclectique que l'impression qu'en donnent les médias. C'est une musique qui a autant à voir avec le blues qu'avec le rhythm and blues et dont le public est bien plus ouvert à l'expérimentation et aux nouvelles idées qu'on ne pourrait le croire. Dans les années 50, cette tendance à la musique country allait donner naissance à un certain nombre de sous-genres, dont beaucoup allaient avoir une influence majeure sur le rock'n'roll. Il y a le bluegrass, bien sûr, qui a commencé à la fin des années 40, le rockabilly, ainsi que des sons de musique country qui n'ont jamais eu beaucoup d'influence sur le rock'n'roll, mais qui avaient beaucoup de la même énergie, comme le son de Bakersfield, par exemple. Mais Jambalaya est un disque qui a eu une importance capitale. Comme le ragout dont il tire son nom, il prend des éléments des différents domaines et les jette ensemble, créant quelque chose qui a un attrait beaucoup plus grand que vous ne pourriez l'imaginer. Jambalaya deviendra un des éléments essentiels des débuts du rock'n'roll. Elle est d'ailleurs particulièrement appréciée des musiciens en Louisiane, comme Fats Domino et Jerry Lewis, qui ont tous deux enregistré cette chanson au piano. On se souvient aujourd'hui de Williams comme d'un musicien country, et c'est en grande partie parce qu'il est mort avant l'engouement pour le rock'n'roll. S'il avait vécu, il est évident, pour moi, que nous penserions aujourd'hui comme à une star du rockabilly et un pionnier du rock'n'roll. Malheureusement, Hank Williams ne vivra pas assez longtemps pour voir l'immense influence qu'il a eue sur une génération de jeunes musiciens qui allaient révolutionner non seulement la musique country, mais aussi le rock'n'roll.
In that long, some way per will, he sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry.
6 mois à peine après avoir enregistré Jambalaya, il est mort. Son mal de dos l'avait poussé à boire encore plus. Il avait développé une dépendance encore plus grande aux pilules. Il avait acquis une réputation de mec pas fiable qui ne se présente pas sur scène à l'heure ou ne se présente pas du tout. Il était vraiment dans un sale état. Et le soir du nouvel an 1952, alors qu'on le conduisait du Tennessee à l'Ohio pour un spectacle qu'il devait donner pour le jour de l'an, il s'est endormi à l'arrière de la voiture et ne s'est jamais réveillé. Lorsque sa mort a été annoncée, au concert où il se rendait en voiture, le public a d'abord rigolé, pensant qu'il s'agissait d'une excuse bidon pour excuser son absence sur scène. Son dernier single, sorti un mois plus tôt, s'intitulait « I'll never get out of this world alive ». Je ne sortirai jamais de ce monde vivant. Il avait 29 ans. Note de bas de page. Il existe plusieurs biographies de Hank Williams, mais c'est celle de Colin Hescott qui est généralement considérée comme la meilleure. Les enregistrements de Williams sont maintenant tous dans le domaine public et il existe de nombreuses compilations de qualité et bon marché. On en trouve également beaucoup et souvent en vinyle dans les vide-greniers et les magasins d'occasion. Il existe un film récent intitulé « I Saw the Light » avec Tom Hiddleston, l'acteur qui joue Loki, le frère de Thor dans les films Marvel. Eh bien, contrairement à ce que je dis d'habitude, les biopics sont souvent des échecs. Ce film est très correct, c'est un biopic assez réussi et c'est assez rare pour être souligné. Je remercie également le podcast L'histoire du rock'n'roll en 500 chansons de Andrew Hickey. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le capitaine Diligaf. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter, on ne sait jamais.
Voilà, ok. Là, d'accord. Wow.